L'EM. L'émission. L'émission. Sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion, en direct à midi et en rediffusion à 18h. Aujourd'hui, nous frotterons la technique et la philosophie, rien que ça. On n'a peur de rien sur Radio Évasion. En fait, on va se pencher sur notre quotidien numérique, tous ces systèmes qu'on appelle intelligence artificielle. Des algorithmes qui nous suggèrent des amis sur Facebook ou des vidéos à voir sur YouTube, qui pilotent des voitures autonomes ou qui diagnostiquent des maladies. Ce sont le fait de cerveaux non humains. Enfin, cerveau, le mot est sans doute peu adapté, tout comme le mot intelligence d'ailleurs. Notre invité travaille dans cet univers qu'il connaît très bien. Il est aussi le fondateur de la cantine numérique de Brest et il milite pour un numérique réellement au service des humains. Il se penche notamment donc sur la question qui nous intéresse aujourd'hui, celle de l'éthique des intelligences artificielles. Bonjour Aymeric Poulain-Mauban.
Bonjour.
Alors intelligence artificielle, ouais, c'est un peu le problème, c'est de comment on appelle ça, mais qu'est-ce que c'est en vrai ?
Ouais, la question est intéressante, surtout si on demande par exemple qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle ou qu'est-ce que c'est une intelligence artificielle. Il y a une différence entre savoir identifier quand on la voit une intelligence artificielle et la définir. Bon, autant dire tout de suite, il n'y a pas de définition. Les gens continuent, les chercheurs, les chercheuses continuent à chercher des définitions. Et d'ailleurs, même pour l'intelligence en soi, c'est déjà une chose qu'il faut définir. Et ça aussi, on a des définitions très courtes, des définitions très longues. Il y en a une, moi, j'aime bien, que j'utilise souvent, c'est l'intelligence. La capacité à résoudre des problèmes et à s'adapter à son environnement. Celle-ci, elle est simple et elle concerne à la fois les humains, les animaux, les plantes et aussi les intelligences artificielles, par exemple. Voilà, c'est ça. Alors, pour l'intelligence artificielle elle-même, on peut revenir, à l'histoire. C'est assez classique comme présentation. Dans les années 50, le terme a été inventé, intelligence artificielle. Et l'idée des chercheurs, c'est plutôt des hommes à l'époque, c'était de... Ils avaient comme but de produire des programmes qui se conduiraient, il faut bien entendre le conditionnel, ou qui penserait intelligemment. Voilà. Les ambitions, le défi, c'était chercher à produire sur un ordinateur, alors je lis des listes de points parce que c'est des définitions très précises, un ensemble de sorties qui serait considéré comme intelligent s'il était produit par un être humain. Ça, c'est vraiment l'ambition originelle. Et puis aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Il y a de nouveau... l'IA est partout, on la trouve dans tous nos outils. Elle est dans notre quotidien.
C'est ça, on ne s'en rend même pas compte.
Voilà, on ne s'en rend pas compte. Donc on en croise tous les jours. On en a dans nos téléphones mobiles, bien sûr, dans nos voitures. Les systèmes qui nous permettent de retrouver notre chemin, GPS, etc., sont souvent pilotés par des IA. Ou alors la voix synthétique, c'est une voix qui a été créée par une IA. Vous voyez, de temps en temps, je dis une IA. Je pourrais même dire un système d'intelligence artificielle. Enfin, il y a plein de manières de dire. Donc... Ça peut être des robots, tels qu'on peut l'imaginer, dans des usines, mais ça peut être aussi des algorithmes. Donc, il y a un aspect physique, un aspect logiciel. Et puis, si vous voulez, on peut aussi distinguer les IA qui seraient dites autonomes. Elles n'ont pas trop besoin ou elles n'interagissent pas trop avec les humains. Les IA qui sont plutôt dans une relation avec les humains, donc les interfaces humain-machine, c'est une deuxième grande classe d'IA. Et puis, quand on élargit, et là c'est de plus en plus, et quand on arrivera sur les questions d'éthique, c'est ça qui sera notre sujet, c'est l'IA vue en tant qu'objet socio-technique. Donc comment cet objet technique influe sur la société, sur le vivre ensemble et les rapports entre social et technique.
Mais sur le comment ça marche une IA, en gros, ce sont des calculs qui font des classements en fonction de ce qu'ils ont appris, c'est ça ? Enfin, pour être très trivial.
C'est une des formes des systèmes d'IA aujourd'hui, c'est effectivement pouvoir faire de la prédiction en faisant des calculs à partir de grands ensembles de données. Souvent, c'est ceux que nous, on a fournis, justement, en utilisant les réseaux sociaux que vous citiez tout à l'heure. On a fourni des images, on a fourni du texte, enfin, tout ça, ça a été donné à manger à ces gros algorithmes qu'on appelle le deep learning, c'est-à-dire l'apprentissage profond, parce qu'il y a énormément de calculs qui sont faits pour obtenir des modèles d'apprentissage et sur lesquels les décisions sont prises, mais souvent en se référant à des informations du passé. Donc, ouais. On finit par peut-être répéter des choses qui sont déjà connues. Il n'y a pas vraiment d'inventivité, peut-être.
Non, mais leur grande force, c'est la quantité de données qu'elles avalent, en fait,
oui, c'est
ces IA par rapport à un cerveau humain, c'est sûr. Alors, l'éthique, en ce qui concerne l'éthique des intelligences artificielles, est-ce que c'est une question qu'on s'est posée dès le départ? Est-ce que c'est récent? Depuis quand, en fait?
Oui, de manière générale, l'éthique dans les sciences, dans les technologies, c'est quelque chose qui est quand même assez présent, notamment dans le domaine de la santé. Si en France, le comité d'éthique, c'est le comité d'éthique national, c'est le comité autour des biotechnologies, autour de la santé. Et c'est d'ailleurs dans ce comité, mais on y aidera peut-être à la fin, qu'il y a depuis 2 ans un sous-comité, je dirais, il n'a pas encore son autonomie, si vous voulez, un comité d'éthique sur les questions du numérique, ça en France. Voilà. Donc ça, on pourra y revenir. Mais donc ces questions-là, elles existent depuis toujours. Moi, je dis souvent, je fais pas mal de formations devant des étudiants en école d'ingénieur, école de commerce, justement, pour les éveiller à ça. Et je leur raconte souvent une histoire. Au sortir de la guerre, il y a un gars qui s'appelait Vannevar Bush, qui était un physicien et la Deuxième Guerre mondiale, et qui, voyant ce que les scientifiques avaient permis en termes de la bombe nucléaire, tout simplement, il a dit, bon, tout ça, c'est bien, on a gagné la guerre, on a sauvé le monde, si vous voulez, mais il y a quand même un problème, quoi. La science ne devrait pas servir à ça, quoi. Donc, il écrit tout un texte pour dire comment on devrait, nous, scientifiques, penser, etc. Et quand on lit ce texte, eh bien, on retrouve les prémices du web. Il a écrit en 54 ce qui est devenu le web, c'est-à-dire notre outil numérique pour connaître, pour partager de la connaissance, pour vivre ensemble.
Le grand réseau.
Voilà, c'est ça.
Oui.
Donc, et là, derrière, quand on lit ce texte, on voit bien qu'il y a une question de la réflexion sur qu'est-ce que la science peut faire et qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire. Comment se freiner.
Oui, le bien et le mal, qu'est-ce que ça va apporter de bien et qu'est-ce que ça va apporter de mal.
Ouais. D'accord. Donc, alors, est-ce qu'on a dans les scientifiques qui travaillent sur l'IA dès le début ces questions éthiques? Pas vraiment. J'ai lu un papier récemment, c'est-à-dire une publication scientifique, quelqu'un qui a regardé l'ensemble des publications récentes depuis, justement depuis les années 50, qui contenaient dans leur titre, donc des publications sur l'IA, qui contenaient dans leur titre le mot éthique ou un mot approchant, quoi. Et en fait, il n'y a pas grand-chose, il y a quelques papiers de ci, de là, mais c'est surtout à partir de 2018 que ça décolle. Donc dans la...
Oui, alors, ah oui, c'est récent.
Oui. Et alors maintenant, on en trouve partout.
Ah oui,
Et on trouve souvent dans les publications scientifiques des sections de textes à la fin de la publication où les chercheurs, les chercheuses expriment les considérations éthiques pertinentes par rapport à leur recherche. Pas toujours, mais maintenant, c'est devenu une section assez courante dans ces publications. Donc si c'était pas dans la science, on l'avait plutôt dans la science-fiction et dans tout ce qui est la culture populaire. Bon, on connaît par exemple les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, il y en a plein d'autres, mais ça c'est vraiment ancré dans cet imaginaire-là. Voilà. Mais pour la science, on l'avait pas trop. Donc depuis 2018, il y avait des papiers qui sont sortis posant les choses de manière assez solide pour éveiller la communauté, pour la guider vers cette réflexion-là. Notamment un papier qui date de février 2018, qui avait fait une liste, alors c'est des papiers qui sont super longs, c'est 50 pages, 100 pages, une liste des menaces que le numérique et que l'IA pouvaient porter. Donc il y avait des menaces sur les ressources numériques, des menaces sur les objets matériels, tout ce qui est objet de l'Internet, par exemple, est-ce qu'on pouvait hacker avec de l'IA,
objets connectés,
voilà, objets connectés.
Ouais, voilà.
Ça, c'était les deux grandes classes de menaces, j'allais dire, un peu évidentes, qui paraissent naturelles.
Les menaces sur les ressources numériques, c'était quoi? Assez de serveurs, c'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin, des d'accord. menaces algorithmiques. On va faire du déni de service sur des serveurs, par exemple, etc.
Voilà, d'accord. Trop de personnes sur un service.
Ou alors de l'attaque des virus ou des choses comme ça.
D'accord.
Mais côté numérique.
Oui, d'accord.
Et l'autre, c'était côté matériel. Là, il peut y avoir quelque chose de matériel qui brûle ou qui est détruit.
Des serveurs qui brûlent, ça arrive.
Des voitures qui se rendent dedans. Enfin, là, il y a du matériel. Et la troisième type de menace, c'était les menaces sur la société. Et donc, on parlait comme 2018, c'est il y a 4 ans, on commençait bien sûr à parler dans ces menaces-là, de tout ce qui est deepfakes, c'est-à-dire le fait d'utiliser les algorithmes de deep learning, d'apprentissage profond, pour créer de fausses images ou de fausses vidéos de personnes et donc faire croire qu'elles ont dit des choses. Alors, ça peut être la vidéo, ça peut être du son aussi d'ailleurs, mais
inventer. Créer de l'infox,
Ça, c'était le troisième grand type de menace.
D'accord. Donc, ouais, c'est d'accord. Il y avait d'autres. J'imagine que oui, il y en avait beaucoup d'autres. Il y a notamment une menace qui est peut-être apparue plus récemment, c'est celle des juste intrinsèque presque à l'intelligence artificielle et à sa manière de fonctionner, c'est les biais. On dit une intelligence artificielle, c'est pas parce qu'elle est intelligence artificielle qu'elle a pas des biais. Quels sont-ils ces biais? par exemple ?
Alors, ça, c'est la grande question. Déjà, qu'est-ce que c'est des biais ?
Ouais.
Bon. Et ça, déjà, c'est pas facile à définir. Bon, alors, des biais, quand on parle des biais, déjà, on va parler des biais des algorithmes. Et alors, la définition, il y en a une qui est courte aussi, c'est quand le résultat de l'algorithme est non neutre, non loyal ou non équitable. Ah. Voilà.
Bon, c'est bon, simple,
ça,
en effet.
On comprend à peu près ce qu'il peut y avoir derrière, mais après, c'est bien de voir sur des exemples.
Oui,
mais là, on parle des biais des algorithmes, mais il faut comprendre que ce n'est pas l'algorithme en soi qui apporte des biais. Quoique, alors il y a des gens qui disent, non, les algorithmes sont... mathématiquement, j'allais dire, c'est pas eux qui apportent des biais. Mais on arrive quand même, d'autres disent, on pourrait démontrer qu'un biais peut arriver seulement de l'algorithme et pas des humains. Là, il y a une espèce de
discussion. Ouais, ça serait la façon dont le calcul est pensé qui renforcerait le biais.
Un algorithme qui serait mal conçu et par sa mauvaise conception, pas par les données dont il se nourrit, mais par sa mauvaise conception, de toute façon, apporterait des biais.
D'accord.
Bon, il y a toujours des humains derrière, donc c'est aussi les biais des humains. Et les biais, ça peut être des préjugés en réalité pour dire les choses, pour employer un vocabulaire plus accessible que le mot biais qui veut dire beaucoup de choses, donc des préjugés par exemple.
Alors allons-y exemples justement,
des exemples de biais, on en a pas mal, des classiques autour du genre par exemple. Alors un exemple, c'est le passage du masculin au féminin dans des logiciels de traduction. Vous prenez un texte dans lequel on a écrit, on a parlé d'un docteur, d'un infirmier ou d'une docteure, d'une infirmière. Vous voyez, dans des langues dans lesquelles il y a du genre. Okay, vous injectez ça dans un logiciel de traduction vers une langue dans laquelle il n'y a pas de genre. Donc tout est neutre. Okay, et ensuite, vous retraduisez dans l'autre sens vers une langue où il y a du genre. Eh bien, systématiquement, parce que les données d'apprentissage étaient biaisées, systématiquement, on va avoir un docteur, c'est l'homme qui a le prestige,
qui l'emporte.
Voilà, et une infirmière. Le travail de docteur, de médecin ou le travail d'infirmier a autant de prestige aussi. Moi-même, en présentant ça, j'apporte peut-être un préjugé sur le fait qu'il y aurait un métier qui serait plus valable qu'un autre, on est d'accord. Mais il y a eu, le genre a été systématiquement associé à un certain type de métier. L'algorithme lui-même, c'est lui qui est en faute.
Parce que l'algorithme, il renforce quelque part ce qui est. C'est-à-dire que quand, par exemple, on constate qu'il y a plus que la communauté afro-américaine est plus représentée en prison proportionnellement, eh bien l'algorithme le constate et donc du coup il va en fait...
Exactement, et ça on a des exemples à l'appel là-dessus, justement sur les personnes de couleur. On a aussi des exemples dans le domaine de la santé où on essaie de voir comment financer des actions de santé auprès d'un public dans une ville, etc. Et comme habituellement dans le monde avant l'IA, j'allais dire, les personnes de couleur recevaient moins de financement pour leur santé. Ceci se trouve dans les données. Et quand l'algorithme travaille, il se dit, ah bien, finalement, les personnes de couleur dépensent moins pour leur santé. qu'en fait, elles reçoivent moins. Oui. Mais on ne sait pas combien elles dépensent. Et on se dit, ce qu'on a injecté comme argent dans ce quartier correspondrait probablement à la réalité de l'état de la santé de ce quartier. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un proxy. On estime des données par proximité, mais on a fait une erreur en les estimant. Et on renforce, du coup, parce qu'on a l'impression que les personnes de couleur sont moins malades que des personnes blanches. Je dis les choses rapidement et on renforce et on ne fait que c'est un effet de boule de neige, on ne fait qu'accélérer ce phénomène.
Ouais, moins on perpétue des inégalités et au pire on les renforce.
C'est ça.
Ouais.
Et donc il faut avoir conscience de ça. Et c'est pas évident de prendre conscience de ça. Il faut être il y a tout un tas de techniques, mais c'est pas évident. Alors un autre type de domaine, c'est tout ce qui est reconnaissance faciale, parce que ça c'est
grand
sujet qui nous encore récemment s'est proposé pour l'accès au stade, etc. Donc là, il y a des problèmes parce qu'on essaie de reconnaître sur les visages les gens, bien sûr. Donc ça veut dire que tout le monde serait dans une base de données. Bon, ça, c'est un autre aspect. Mais est-ce qu'on pourrait aussi reconnaître des émotions ou des états d'émotions, d'énervement, d'anxiété ? Donc ça, c'est pas du tout évident.
C'est un peu arbitraire.
On pourrait faire une émission là-dessus.
Ah oui, tout à fait.
Mais un exemple de biais lors d'une session d'apprentissage d'un logiciel sur le comportement. Alors, c'est pas la reconnaissance faciale, c'est la reconnaissance corporelle, c'est-à-dire reconnaître dans la rue l'attitude d'une personne. Une personne qui tourne en rond, c'est peut-être un peu louche. Ah, oui, oui. Une personne qui a déposé un sac quelque part et qui s'en va, c'est louche. Donc on a besoin d'étudier ses comportements. Bon. Eh bien là, il se trouvait qu'il y avait des personnes qui dansaient. Ah bah on a oui. le droit de danser dans la rue, hein. Mais les gestes étaient tels ou c'était suffisamment peu vu dans la base d'apprentissage des comportements que ça a été considéré comme des personnes qui se bataillaient.
Ah oui.
Oui, parce qu'elles dansaient ensemble.
Ah oui.
Et les mouvements.
Il y avait une confrontation voilà. physique.
Et donc ça envoie des policiers sur la zone, alors que c'est juste des personnes qui dansent dans la rue, quoi.
Ouais.
Donc on voit bien qu'il y a encore des soucis là. Il y a encore du boulot.
Bah, c'est vrai. Et puis sur la reconnaissance faciale, je crois qu'il y a eu de toute façon même des tests réalisés avec des humains qui eux-mêmes avaient du mal finalement à identifier certaines expressions sur le visage
oui,
humain,
oui.
Donc des intelligences
Exactement.
Artificielles.
Exactement, ça c'est un vrai problème. Nous, on ne sait pas complètement faire, donc...
C'est ça, oui.
Et là, sur ces exemples-là, on s'approche aussi, enfin, il y a une chose qu'il faut dire à ce stade-là, c'est que ici, l'intelligence artificielle, c'est une sorte d'ingénierie du pouvoir. Masculine hein, au départ.
Ben
oui.
Beaucoup.
Ouais. Et ça, on espère que ça va changer. Là, mais... et donc, l'idée, pour beaucoup, hein, c'est, mais peut-être pas consciemment, mais certains consciemment quand même, c'est de faire en sorte que le pouvoir tel qu'il existe aujourd'hui soit répété. Hein.
C'est ça.
Et là, sur la reconnaissance faciale, on a vraiment ce sujet-là, hein, utiliser les photographies des gens, etc., pour pouvoir continuer à perpétuer un certain type de société. Quoi.
Donc, et des modèles de domination, comme
on dit.
Des
domaines de domination, exactement. Mm-hmm. Bon, ça, voilà, on a fait le genre, on a fait les personnes de couleur, on a fait... C'est des exemples assez ouais. classiques, mais il y en a d'autres plus nouveaux, enfin... qui commence à, comment dire, à apparaître et les gens en prennent conscience, les chercheurs en prennent conscience et la société. C'est notamment, par exemple, sur les enjeux climatiques. Bon, c'est un problème. De manière générale, on est d'accord. Les intelligences artificielles et le numérique en général, il est possible que ça consomme beaucoup de ressources, électricité, alors peut-être renouvelable, pas. Bah, il y a un coût derrière, il faut voir. Et donc, ça, c'est un premier aspect. Et deuxième aspect, c'est qu'on se dit c'est un problème, les enjeux climatiques, mais l'IA sait tout faire. Donc, on va mettre de l'IA là-dessus, des algos, vous voyez, je dis ça comme ça, de l'IA.
Voilà, de l'IA.
Et ça va résoudre tous les problèmes. Et donc, là, il y a derrière une idée de technosolutionnisme dont il faut se méfier. Et là, là aussi, ça a un biais, une espèce de croyance que la technique numérique va tout résoudre.
Ouais.
Elle va le résoudre en partie, c'est possible.
Ça va aider.
Elle va peut-être améliorer des choses, mais peut-être aussi en abîmer encore plus. Donc, il faut être vigilant là-dessus. Et là, pareil, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui ont bien compris l'ensemble du système et qui appellent à la vigilance. Ça, c'est un premier sujet. Et le second sujet, c'est quelque chose aussi d'assez récent, c'est ce qu'on appelle les grands modèles de langage. Bon, je traduis directement comme ça en français. Si vous voulez, on a fini par entraîner avec tous les textes qui existent sur Internet, hein, les corpus de textes, on a fini par entraîner des géants de la synthèse de textes. Il y en a un qui s'appelle GPT-3, par exemple. Enfin, il y en a d'autres, mais celui-là, peut-être, ça parlera à certaines personnes qui écoutent. Et sur ces grands modèles de textes, par exemple, hein, on peut en entrée poser une question, ce qu'on appelle un prompt. Enfin, on met quelques mots et puis, si c'est bien astucieusement fait, le bidule là, le grand modèle de texte, va nous créer un texte intelligent
à partir de
derrière.
Mots.
Voilà,
d'accord.
C'est, ouais. c'est une des pratiques. Donc c'est ouais. génial, etc. Mais là aussi, ça perpétue des manières de voir antérieures parce que ça ne fait que s'inspirer.
Des vieux schémas de pensée,
voilà.
comme on dit.
et là, on a énormément de questions d'éthique derrière parce que donc il y a la perpétuation de des vieux schémas de pensée. Mais il y a d'autres aspects comme l'utilisation, par exemple, par des gens qui auraient des intentions malveillantes de ces grands modèles qui sont très puissants hein, pour fabriquer des faux textes à l'appel et nous noyer sous des fausses informations. Ben, il y a énormément de risques. Là aussi, j'ai lu une publication récente dont je parle sur un des sites sur lesquels j'écris pour les gens qui ont plus de temps que
ouais.
pour pouvoir lire. La publication, listait 6 grands ensembles de risques et en fait. Plus d'une vingtaine de risques possibles, rien que sur ce sujet des grands modèles de texte. Alors, c'est super important, ça, je trouve. Hein, tout est important.
Oui,
mais c'est important, notamment pour, à nouveau, hein, pour les gens, les jeunes qui se dirigent vers des métiers autour de l'IA. Et ils pourraient dire, c'est quand même merveilleux, c'est la science-fiction qui vient à notre portée, etc. Et moi, je vais travailler sur ces grands modèles, etc. Mais il faut qu'ils aient conscience la puissance de calcul qui est nécessaire pour ça, donc les ressources, et on revient au truc d'avant là, sur l'environnement, mais aussi de tous les risques qu'il peut y avoir de mauvaises informations, par exemple sur les langues minoritaires aussi, elles sont peu représentées dans les données, donc elles vont disparaître, enfin plein d'aspects comme ça.
Oui, des impacts d'une technique auxquels il faut toujours réfléchir. Et alors justement, qui peut déterminer les bons principes qui présideraient au fonctionnement des intelligences artificielle. Je crois qu'il y a déjà des projets de charte, UNESCO.
Oui. Alors, il y a eu dans plein de pays, plein d'organisations non gouvernementales, un grand nombre de chartes et de grands principes autour de ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait appeler concevoir des IA responsables. Et il y en a eu tellement qu'on se noyait dedans. Et un travail a été fait par certains pour trouver des grands principes génériques ou généraux sur lesquels on pourrait se retrouver des termes sur lesquels tout le monde pourrait s'entendre. Donc, ouais. Ça existe maintenant. Mais tout de même, la plupart de ces textes aussi ont été rédigés à l'origine par encore des hommes. Enfin, il faut des choses rapidement. Des femmes aussi, mais beaucoup à nouveau avec un certain nombre de préjugés. Donc il faut quand même aussi avoir conscience de ça. Et sur la question qui décide, c'est encore qui décide de ses valeurs, qui décide de ses principes. Ça a été encore pendant longtemps, même si ça change depuis quelques années, les gens qui avaient le pouvoir, des informaticiens, puisque les femmes en informatique ont quand même disparu au fil des années, alors qu'elles étaient plutôt à l'origine.
Oui, on le sait.
Ouais. Donc plutôt des hommes, plutôt alors monde occidental et Asie du Sud-Est. Donc des hommes qui ont rédigé ça. Alors c'est en train de changer. Et de plus en plus aussi, dans les colloques, les grands colloques autour de l'IA, on trouve des sous-sections ou des symposiums qui sont intégrés dans ces colloques avec les femmes dans l'IA ou les noirs dans l'IA, parce que black in AI, donc je le traduis directement, queer in AI, les personnes queer en AI, en intelligence artificielle, tout un tas de groupes constitués.
De ce qu'on appelle des minorités, quoi.
Les femmes ne sont pas des minorités, c'est difficile de dire ça, on est d'accord.
Des gens minorisés, on va dire.
Oui, et qui ont une vue, qui sont affectés par les biais dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Alors que ceux dont je parlais juste avant, les blancs, eux, ils ne se rendaient pas compte de ça. Mais tous les exemples des algos qui sont partis en vrille avec des biais pas possibles, c'était tout simplement parce que les gens qui les avaient programmés ne se rendaient pas compte parce qu'ils ne le vivaient pas dans leur chair. Donc là on a ça. Et ça, c'est vraiment un des enjeux. C'est faire que les gens qui sont autour de la table, comme on dit, soient plus diverses que ces seuls hommes blancs. Donc ça, c'est en train de changer aussi peu à peu, pour répondre à la question
Puis après, on ne sait pas toujours comment c'est fait. Il y a quand même des problèmes de transparence sur la façon dont sont conçus des tas d'algorithmes,
la transparence, justement, ça, c'est un des principes. Alors, maintenant, on sait, il y a 8 grands principes. Donc, dans ces grands principes-là, pour développer des IA responsables, il y a effectivement un principe de transparence et qui est lié aussi au principe d'explicabilité. Comment faire en sorte que, quand une intelligence artificielle nous fait face, qu'on puisse comprendre pourquoi elle a été amenée à... J'essaie de choisir mes mots avec soin, prendre des décisions. Alors, en fait...
À proposer
des décisions, qui vont nous affecter. Ouais. Donc, nous, en tant que citoyens, en tant qu'humains, en tant que, je ne sais pas qui, père de famille, enfant, on a le droit, on doit pouvoir demander des comptes les gens qu'on programmé, ou la société, ou je ne sais qui. Ce principe de transparence, il est assez complexe il se décline en plein de sous-actions et on le retrouve, il est assez central dans pas mal de chartes.
Mais il faudra bien avoir conscience qu'il y a de toute façon des différences culturelles. Un Chinois n'a pas forcément le même critère de ce qu'est la liberté individuelle qu'un Européen.
Oui. C'est ça. Alors ça s'est vu notamment dans une aventure qui s'appelle. Il y a des gens qui ont depuis assez longtemps maintenant essayent de faire ce qu'on appelle des machines morales pour traduire directement moral machine en français. Donc disons des algorithmes ou des outils numériques qui exhiberait, présenterait un certain degré de moralité. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin, les gens qui travaillent là-dessus se disent que c'est bizarre. Enfin. Et donc, un test qui avait été fait il y a plusieurs années, c'était autour d'un dilemme qui est assez fameux, qui s'appelle le dilemme du tramway, dont on parle souvent. Donc, l'idée, c'est que vous avez des rails avec un tramway, alors ça peut être un bus, une voiture, un tonneau, n'importe quoi, qui avance. Et puis, elle a le choix d'aller à droite ou à gauche. Mais à droite, il y a une vieille grand-mère qui est en train de traverser la rue. Et à gauche, il y a un bus avec des enfants. Et puis, de toute façon, il faut qu'elle passe d'un côté ou de l'autre. Et puis, il va y avoir un accident, il y aura des morts. Et c'est à vous de décider. Vous ne pouvez pas freiner. Donc, votre dilemme, c'est vous allez écraser la vieille dame.
Ou les enfants.
Bon, alors, si vous n'aimez pas les grands-mères, vous allez à droite. Si vous n'aimez pas les enfants, bon. Et donc, cette question-là a été posée à plein de gens dans plein de pays. Donc, il y a une étude sur une cinquantaine de pays. Fin. Et c'était très intéressant de voir que selon la culture, effectivement, la réponse n'était pas la même.
Ah oui.
Parce que dans certains pays, les personnes jeunes sont valorisées parce que c'est l'avenir du pays, etc. Et les personnes âgées, elles ont vécu leur vie. Donc, s'il faut sacrifier, ça sera la personne âgée. Dans d'autres, les personnes âgées, c'est
les bibliothèques
c'est le
qui brûlent.
Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, les enfants, il y en a plein, ça court les rues. Ouais. Donc, je dis ça comme ça.
C'est intéressant.
Et on arrive, le dilemme, alors, qui est très critiquable en soi pour plein d'autres raisons, ce dilemme-là, il est intéressant pour ça.
Et bien sûr.
Parce qu'on voit que, selon la culture, on ne sait pas répondre. Voilà. On est bien embêté avec ça.
Ouais. C'est bien tout le problème des questions morales. Bon, alors, on arrive déjà au terme de l'émission. On a une annonce à faire. C'est que même à Brest, on s'intéresse à l'intelligence artificielle, c'est ça bientôt ?
Oui, alors on s'y intéresse tout le temps.
Hein. Tout le temps, bien sûr.
Moi qui suis ça depuis, parce que j'ai fait de la recherche en IA dans les années 90 sur Brest, dans une grande école. Donc je vois ce microcosme, j'allais dire, ou cet écosystème depuis longtemps. Donc il y a vraiment des équipes de qualité. On fait régulièrement maintenant, depuis quelques mois, ce qu'on appelle des meet-up. On fait parler des chercheurs et des chercheuses sur leurs travaux. Et franchement, on a des gens qui sont excellents de qualité. Et là, depuis 3 ans, il y a un événement qui s'appelle les AI Days. Alors, il y a une URL, hein, c'est AI.DAYS Days.
Bon, on
BZH, facile à souvenir.
Ouais.
Donc, c'est juste avant l'été. Là, ça va être le 29 juin, 29 et 30 juin. C'est ouvert à la fois au grand public. Alors, c'est gratuit. Donc, on peut avoir un profil de type grand public ou de profil de type dirigeant, dirigeante d'entreprise. Ou alors, expert, on veut en savoir un peu plus. Et justement, sur plein de questions autour de l'IA. Alors, pour le grand public, j'ai noté, par exemple, il y aura le 29 juin, c'est un mercredi, donc le midi, il y aura des démonstrations de reconnaissance faciale. Alors, ça se passe au Capucin, hein, donc c'est autour de la médiathèque, etc. Mmh. Enfin, il y aura une conférence sur l'IA, les transports, l'IA dans le sport, enfin, plein d'angles comme ça, où vous pourrez, l'IA et justement les questions environnementales. Donc, ça peut être bien pour le grand public, dans l'amphithéâtre, de poser des questions avec des experts, ou alors d'aller sur des conférences un peu plus, avec des experts encore plus pointu,
D'accord. Bon, très bien. Bon, on mettra tout ça sur le site de Radio Évasion. Merci, Aymeric Poulain-Maubon.
De rien, avec plaisir.